Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec
Bertrand Gendakourillo.
J'ai encore une fois un réel plaisir de vous retrouver sur la radio Nzamba, Agathe Kakawe. C'est le moment du journal de ce vendredi 28 février 2025. Tout de suite, les titres. Le président Evariste Ndayishimiye plaide pour le démantèlement des groupes armés en RDC, notamment les FDLR, lors d'une rencontre avec les diplomates accrédités au Burundi. Toutefois, la coalition d'opposition CFO Arusha y voit une stratégie visant à rétablir son influence après les avancées du M23, mettant en doute la sincérité de son discours. Et puis, les évêques et cardinaux de la région des Grands Lacs dénoncent les conflits persistants qui ravagent la RDC depuis plus de 30 ans. Ils exhortent les dirigeants de la SADC et de l'EAC à appliquer les accords de Nairobi et de Luanda pour une paix durable. Enfin, les activités commerciales sont suspendues au port de Lumonge à cause de l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC, notamment au sud de Kivu. Les autorités évoquent des mesures de précaution pour empêcher d'éventuelles infiltrations de personnes suspectes, sans préciser la date de réouverture. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Encore une fois, bienvenue. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a présenté ce jeudi devant les chefs des missions diplomatiques accrédités au Burundi la position du Burundi par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Ndayishimiye a entre autres préconisé le démantèlement des groupes armés qui opèrent en RDC, notamment les FDLR, qui perturbent la sécurité dans la région et surtout au Rwanda. On écoute le président Evariste Ndayishimiye.
Il est nécessaire que les forces étrangères non invitées se retirent de la RDC. Parallèlement, la communauté internationale doit soutenir activement le démantèlement de tous les groupes armés, à la fois locaux et étrangers, dont les FDLR, qui continuent à nourrir l'instabilité dans la région. Il est crucial que ces actions soient menées de manière à protéger les civils congolais qui sont des principales victimes de cette violence. Nous sommes convaincus que si la République du Rwanda a la garantie qu'elle ne sera pas attaquée par les FDLR sur son territoire, les autres sujets pouvant provoquer des conflits entre les deux États peuvent être dissipés par voie pacifique. Le M23 est la voie du dialogue intercongolais. Congolais intègre le processus de paix intercongolais sous la facilitation du président Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté est-africaine. Une fois que le M23 pourra se séparer des forces de défense du Rwanda et se montrer que sa composante est congolaise, le gouvernement de la RDC pourra revoir sa position, car c'est une expérience déjà vécue lors du processus initié par la communauté est-africaine. En cesser le fait immédiat et inconditionnel. Pour que ce plan se réalise, il faut créer les conditions favorables à la paix, ce qui montre l'engagement de chaque partie au processus de résolution pacifique des conflits.
La coalition de l'opposition politique SFO Arusha constate que le président Ndayishimiye a changé de discours par rapport à l'insécurité à l'est de la RDC et par rapport au Rwanda voisin. Cette organisation politique pense qu'il s'agit là d'une ruse du président Ndayishimiye pour espérer de récupérer ce que lui et son homologue congolais Tshisekedi ont perdu avec les dernières avancées du M23. On écoute Jean Bosco Guguemera, vice-président de la coalition politique SFO Arusha. Il doute de la bonne foi de Ndayishimiye dans son discours.
Avant, il parlait d'une attaque imminente par le Rwanda. Maintenant,
Il parle de dialogue avec le M23, du démantèlement des groupes armés dont le FDLR. Il affirme que ce dernier constitue une menace pour le Rwanda et qu'une fois démantelé, le Rwanda sera stable et que même d'autres conflits qui pourraient surgir seraient résolus facilement. Maintenant, des questions se posent. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le président burundais change ou du moins adoucisse son discours? Aurait-il eu des conseils? A-t-il eu peur de quelque chose? Qu'est-ce qui est caché derrière le discours de Ndayishimiye compte tenu de l'image que Sefor Arusha a de lui? Si la communauté internationale accepte de s'impliquer dans le démantèlement des FDLR, va-t-il accepter de collaborer puisqu'ils sont logés pour la plupart au Burundi? Ici, une attention particulière est attirée sur le doute que Ndayishimiye a sur l'appartenance congolaise des membres du M23, sur ce qu'il appelle les groupes qui se sont invités dans cette guerre et la demande de cesser le feu immédiat et inconditionnel. Il veut rééditer ce qu'il a fait en 2023 quand il était à la tête de l'EAC, en abusant de la confiance du M23 qui a accepté le cesser le feu en lui confiant les localités libérées, chose qu'il a détournée en son avantage en les rétrocédant à Tshisekedi et en combattant à son côté au lieu d'être médiateur. Pourquoi il ne dit rien sur ses troupes, celles des autres pays comme si elles étaient en RDC au nom de la paix? Bref, quoique diplomatique, le discours de Ndayishimiye ne cache ni ses convictions, ni les possibilités d'une récidive dans la complicité des massacres contre les Tutsis de l'Est de la RDC. Il s'agit ni plus ni moins d'une ruse adoptée pour tenter de récupérer ce qui est perdu.
Alors que le conflit en République démocratique du Congo se rapproche dangereusement de la frontière burundaise, les préparatifs militaires et le déploiement des troupes s'intensifient. Selon des sources militaires, un ordre a été donné pour empêcher le mouvement M23 de poursuivre son avancée et de reconquérir les territoires déjà occupés. Les autorités restent en alerte face à l'évolution de la situation, tandis que les populations frontalières redoutent une escalade des combats. Le point avec Bonfils Niongere.
Les forces armées burundaises qui soutiennent l'armée congolaise dans la lutte contre le mouvement M23 dans la province du Sud-Kivu comptent désormais plus de 17 bataillons, soit environ 14 000 soldats burundais. En plus des bataillons déjà présents en République démocratique du Congo, un nouveau bataillon qui se prépare pour être déployé en Centrafrique sous la mission des Nations Unies, la MINUSCA, est en cours de préparation pour rejoindre les troupes burundaises en RDC. D'après les mêmes sources, la majorité des soldats burundais se trouvent actuellement dans la plaine de la Rusizi et la ville d'Uvira, située à une trentaine de kilomètres de Bujumbura. D'autres troupes burundaises sont positionnées dans la région de Baraka et Fizi, où ils sont censés traquer les rebelles burundais armés, notamment les groupes Red Tabara et FNL dirigés par le général Aloïs Nzabamema. À Bujumbura, plusieurs véhicules militaires de police sans plaque d'immatriculation ont été aperçus. Certains traversant la frontière Vugizo et Gatumba pour entrer en RDC. Il est rapporté que des véhicules de l'armée et de la police congolaise sont mélangés à ceux du Burundi afin de faciliter les déplacements et d'éviter d'éveiller les soupçons. Pour plus de discrétion, les plaques d'immatriculation de tous les véhicules impliqués dans ces opérations ont été retirées. D'autres informations font état de l'atterrissage d'avions militaires à l'aéroport de Bujumbura, certains en provenance de Kinshasa, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie, venus apporter un soutien à la guerre en RDC. Cependant, des tensions émergent au sein des forces armées burundaises. Certains soldats expriment leur frustration à qu'ils aient espéré de les engager dans un conflit dont ils ne comprennent pas toujours les enjeux. Après les explosions récentes à Bukavu, des spéculations sur les réseaux sociaux suggèrent que l'armée burundaise serait impliquée. En réponse, le général Gaspard Baratuza, porte-parole de l'armée burundaise, a démenti toute présence de soldats burundais à Bukavu. Cette déclaration intervient quelques jours après avoir lui-même confirmé que les troupes burundaises étaient bel et bien engagées en RDC, répondant ainsi à ce qui affirmait leur retour au Burundi.
Merci à mon fils Niongere. L'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale se dit profondément choquée par les crises et les guerres interminables qui frappent la région des Grands Lacs depuis plus de 30 ans. Réunis à Dar es Salaam ce 26 février, les évêques et cardinaux du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo lancent un appel pressant aux chefs d'État et de gouvernement de la SADC et de l'EAC. Ils exhortent ces derniers à mettre en application les accords de Nairobi et de Luanda afin de trouver une solution durable à la crise qui sévit en RDC. Suivez Monseigneur Salvatore Nichiteretse, évêque de Bururi et vice-président de la CECAB.
Nous, cardinaux, évêques catholiques des Grands Lacs, le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda, nous sommes réunis à Dar es Salaam, capitale de la République unie de Tanzanie, pour approfondir notre engagement pour la paix entre nos communautés et entre nos pays. Nous exhortons les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et de la communauté de développement de l'Australie, SADC, à mettre en œuvre les résolutions du sommet conjoint de Dar es Salaam. Nous accueillons dans la foi et l'espérance la désignation des animateurs des processus de Nairobi et de Luanda, désormais fusionnés. Nous les assurons de notre disponibilité à apporter notre part de contribution à l'édifice de la paix dont nous sommes des protagonistes de par notre mission évangélique. Nous sommes de cœur avec la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sénéco et l'Église du Christ au Congo, SCC, qui se sont engagés à promouvoir le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC Congo et dans toute la sous-région, contribuant ainsi à la mise en route du plan de paix de la CAC. Les groupes armés qui sèment la mort pilurent dans notre sous-région. Nous leur demandons d'arrêter de défendre leurs revendications par la voie des armes qui tuent leurs propres frères et sœurs. Nous demandons que chaque État aménage un cadre efficace de dialogue et d'écoute.
Inzamba. Poursuivons ce journal. Les activités commerciales sont à l'arrêt au port de commerce de Lumonge en raison de l'insécurité qui prévaut dans l'est de la RDC, notamment dans la province du Sud Kivu. Aucun produit n'entre ni ne sort, causant d'importantes pertes aux commerçants. Les autorités expliquent cette fermeture par la nécessité d'empêcher d'éventuels criminels de s'infiltrer via le port. Pour l'instant, aucune date n'a été annoncée pour la reprise des activités. Les détails avec Parfait Mudasigana.
Ça fait presque deux semaines que les activités commerciales ont été suspendues sur le port de la ville de Lumonge. Aucune activité n'est actuellement autorisée sur les rives du lac Tanganyika. Le port de Lumonge était pourtant un endroit fréquenté car on y trouvait plusieurs bateaux chargés de marchandises. Un des commerçants du port de Lumonge indique qu'ils enregistrent une grande perte vu que la plupart de ces commerçants fonctionnent grâce au crédit bancaire.
Nous traversons actuellement une situation difficile car le port de Lumonge qui facilitait le commerce entre le Burundi et le Congo a été fermé. Nous enregistrons une perte énorme car on vendait nos marchandises là-bas à Fizi dans la province du Sud Kivu et à cause de l'insécurité qui y règne, les autorités ont choisi de fermer ce port. Nous attendons impatiemment la décision des autorités pour la réouverture du port, mais certains disent qu'il n'y aura pas une réouverture tant que l'insécurité persiste au Sud Kivu. Même son de croche pour les commerçants opérant sur l'autre rive du lac Tanganyika en République démocratique du Congo. Il déplore l'arrêt de toutes les activités suite à l'insécurité qui règne dans la province du Sud Kivu. Ces commerçants demandent aux parties en conflit de s'asseoir ensemble pour trouver une solution à cette problématique. Rappelons que le port de Lumonge ne servait pas seulement le Burundi et la RDC, car ce port était également utilisé comme un point d'entrée de différentes marchandises en provenance de la Tanzanie.
Merci également à toi Parfait Mudasigana. Poursuivons ce journal par cette brève. 38 jeunes, dont 37 garçons et une fille qui sont rendus en Ouganda pour chercher du travail, sont détenus par la police au chef-lieu de la province de Muyinga depuis la soirée du mercredi, selon des sources policières. Ces jeunes proviennent de différentes régions, notamment de la ville de Bujumbura, la province de Bujumbura, Rumonge et Bururi. La police affirme les avoir arrêtés dans le cadre d'une enquête exprimant des soupçons quant au fait qu'ils aient entrepris ce voyage ensemble. Par ailleurs, elle dément les rumeurs selon lesquelles ces jeunes auraient été interpellés en possession d'armes. Quittons Muyinga pour nous rendre à Ngozi où la commune de Nyamurenza dans la province de Ngozi accueille son troisième administrateur en 5 ans. Dieudonné Nyonzima a été élu par le conseil communal de Nyamurenza pour diriger la commune avant d'être officiellement nommé par le chef de l'État ce 21 février 2025. Il fait ainsi son troisième à la tête de la commune qu'il avait dirigée avant cette période de 5 ans. Il devient ainsi le troisième administrateur nommé avant la fin de son mandat. Il succède à Alexis Nonzuenayo, destitué le 13 décembre 2024 et incarcéré pour diverses accusations selon plusieurs documents officiels ayant motivé sa révocation. Fin de cette édition, merci à la rédaction pour la production de ce journal. Un grand merci à vos chères auditrices et auditeurs pour votre fidélité. Agréable week-end à tous. Au revoir.